un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Le premier, Marcel, est éleveur laitier à Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique. La seconde, Caroline, est pasteur protestante à Kolbsheim, à côté de Strasbourg. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'un jour, une zone à défendre, une ZAD, s'est installée dans leur village et qu'ils ont dû composer, discuter, rencontrer leurs nouveaux voisins zadistes. Ils racontent aujourd'hui l'effet que ça leur a fait, les frictions, les incompréhensions et ce qui les a rapprochés. Je rappelle qu'une ZAD, comme son nom l'indique, c'est à la base un projet de défense, de protection et de préservation de l'environnement contre ce que les militants appellent de grands projets inutiles et dévastateurs. Des ZAD qui seront bientôt au cœur d'une cellule anti-ZAD, annoncée par le ministre de l'Intérieur dans le JDD, qui a promis que plus aucune ZAD ne s'installerait dans notre pays. On pensera ce qu'on veut des moyens employés par les militants pour défendre leur zone, mais cette annonce, dans son intitulé du moins, résonne comme un triste paradoxe à l'heure où la planète a plus que jamais besoin d'être protégée, défendue et sauvegardée. Tout de suite donc, comment ça se passe sur place avec ses voisins, par Timothée de Roglaudre.
Je m'appelle Marcel Thébault, nous sommes à Notre-Dame-des-Landes et je suis agriculteur avec mon épouse sur une ferme de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Je suis fils d'un tout petit agriculteur qui pratiquait une agriculture vivrière dans le sud Manche et j'avais toujours le rêve d'avoir une ferme à moi et nous avons, avec mon épouse, pu le réaliser en 1999. Mon épouse a toujours été chef de l'exploitation et moi, j'ai travaillé avec elle à temps partiel, puis à temps complet et depuis quelques mois, je suis à la retraite. Il y a deux raisons à notre installation ici. Le paysage, c'est-à-dire le bocage que nous avons vu, dans lequel nous pouvions projeter facilement l'organisation du pâturage des vaches laitières que nous avions envie d'avoir. Voilà. Et socialement, on est en Loire-Atlantique, un département où la gauche paysanne a toujours été très importante, très active. Et ça se traduisait pour nous par le fait que c'était un département beaucoup plus ouvert à l'installation. On nous a très bien accueillis et les gens étaient contents que la ferme poursuive son activité, qu'il y ait des gens nouveaux qui arrivent. Et ici, voilà, les gens nous ont vus travailler au bout de quelques temps, nous ont vraiment traités comme des collègues tout à fait sérieux. Alors, notre prédécesseur nous a dit, on m'a dit de pas vous le dire, mais en fait, il y a un projet d'aéroport, je vais vous le dire quand même, quoi. Mais ce projet d'aéroport dormait depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, nous avons fait le pari, comme les voisins qui étaient en place, de se dire, ce projet dort et il ne va pas se réveiller. Alors, Sylvie s'est installée au 1er août 1999 et au mois d'octobre 2000, un ministre communiste des transports relançait le projet d'aéroport. Donc, vous voyez, un an après, toc. C'était pas pour nous un effondrement parce que on avait sincèrement la conviction que les temps étaient passés, quoi. L'explosion de l'activité économique, tout azimut, etc., c'était fini, quoi. Et on s'est dit, il y a une erreur qui fait que ça ressort, mais ils vont bien se rendre compte que c'est pas sérieux. Et on pensait sincèrement que, voilà, il y aurait quelques années de discussion et ça allait s'arrêter. Et en fait, le projet d'aéroport est en route. Le département a fait un courrier à tous les propriétaires de maisons, leur disant, il se peut que ce projet d'aéroport vous inquiète. Dans ce cas, dès que vous le voudrez, nous pouvons acheter votre maison avec toute la souplesse que vous souhaiterez. Vous pourrez prendre le temps de reconstruire une maison ailleurs, etc. On vous met pas dehors, quoi. Beaucoup de gens ont répondu à cet appel-là. Ils ont vendu leur maison au département. Et donc, on s'est retrouvé avec beaucoup de maisons qui étaient vides. Ce que nous, opposants, nous craignions, c'était que du jour au lendemain, on peut avoir une pelleteuse qui arrive et qui met tout à terre. Et donc voilà, il y a des gens qui sont arrivés de la ville, plutôt jeunes, et qui se sont installés dans ces maisons-là parce qu'ils n'avaient pas de logement, pour un certain nombre, ou parce qu'ils ont pensé que c'était un bon moyen pour lutter contre le projet. Et nous, on a vu d'un bon œil le fait que des gens viennent être présents dans les maisons parce que ça compliquait quand même les risques de démolition. Voilà. Et donc, les premiers zadistes arrivent ici en 2007. Première réaction, c'était « on est content qu'il y ait des gens dans les maisons ». Ensuite, c'est des gens qu'on connaissait pas, qui étaient, on va dire, un peu décalés par rapport à nous. Décalés en termes d'habillement, cheveux longs, la barbe systématiquement. Enfin, c'est rien de grave. Mais qui vivaient pas forcément comme nous. Il pouvait aussi y avoir des endroits où tu avais des gens qui arrivaient avec, on va dire deux chiens par personne, tu vois, qui vivaient très décalés. T'as des gens qui ont des chiens et pour qui c'est un chien. T'as des gens qui ont des chiens pour qui c'est un compagnon, c'est un être qui a les mêmes droits que lui. Et là, ça devient compliqué. Nous, on avait des moutons qui sont quand même fragiles face à des chiens. On a eu aussi une jeunisse qui a été blessée. Enfin, je veux dire, chacune des fermes autour d'ici a eu des complications. Faut bien comprendre ça. Je veux dire, donc, t'as eu des réunions au sein de la ZAD où on discutait du droit des chiens sur telle parcelle. Est-ce que c'est le chien qui a le droit d'y aller ou que c'est la parcelle des moutons? Les éleveurs disaient, c'est la parcelle de mes moutons et tu ne vas pas venir m'embêter avec tes chiens, quoi. Bon, quand vous avez trois gros chiens qui se mettent ensemble, voire qui ont un peu faim, ça pose des problèmes. C'est des réalités qui ont existé. Et au fil du temps, c'est un endroit qui faisait rêver un peu tout le monde. Donc chacun arrive avec son rêve. Et donc au fil des ans, en fait, on s'est beaucoup battu sur la façon de vivre sur place, quoi. Sur le fait de dire, c'est pas un endroit vierge, parce que ça fait déjà 4-5 ans qu'il y a des gens qui vivent ici. Et avant, il y avait déjà des gens qui étaient là. Et donc, comment on vit ensemble, quoi. Un des éléments de débat dans notre voisinage, par exemple, c'est les pesticides. Tu vois, des jeunes qui ont 25 ans qui débarquent à un endroit où on a l'impression qu'on se bat contre un des maux du monde, et il y a quand même pas mal de place, il y a des bois, il y a un petit peu de terrain, on refait un peu le monde. Si on refait le monde, il faut le faire bien, quoi. Donc si on le fait bien, il n'y a plus de pesticides. Mais moi, je leur dis, j'étais un peu le représentant des agriculteurs locaux, je disais, les gars, nous, on était là avant vous, on fait quoi des indigènes, là? Et donc, après, il y avait des débats entre eux sur, quand même, est-ce qu'on peut imposer, est-ce qu'on peut pas imposer? Heureusement, il y avait une majorité de gens qui disaient, non, on est là, on va vivre ensemble, on se bat ensemble. L'important, c'est pas ce que fait le voisin, c'est d'abord de se battre ensemble pour que ce projet se fasse pas. Mais ils ne sentaient pas une grande détermination devant la réalité de ce qui pouvait se passer, quoi. Ils nous trouvaient un peu mous, quoi. Alors nous, on les voyait comme des jeunes, on va dire un peu agités. On pensait qu'ils étaient tous coordonnés, comme nous on essayait de se coordonner dans nos associations, mais pas du tout. C'est des gens qui débarquaient, qui de temps en temps allaient se réunir, mais jamais tous. Et nous, on a un fonctionnement vertical, c'est-à-dire on a une association avec un bureau, avec un président, et donc si on a une assemblée pour préparer une manifestation par exemple, le président parle, si individuellement on intervient, on va essayer de pas trop le contredire, enfin en tout cas de pas le mettre en mauvaise posture, quoi. Alors que eux, ils intervenaient juste en leur nom, mais on disait, mais tu représentes qui, toi? Ah ben moi je viens de Rennes, moi, non mais je suis là, et voilà, et au fil du temps dans notre collaboration, on a été obligé d'accepter ce fonctionnement. Et celui qui est président d'une association, normalement, il parle pas beaucoup plus longtemps que les autres, quoi. Après, on a eu l'épreuve de vérité. C'est quand Vinci est arrivé, il a eu le dossier en main. Début 2012, il nous disait, on va vous enlever telle et telle parcelle. Donc, il y avait un chèque à la clé. Et sur grosso modo 50 collègues concernés, on était seulement une dizaine à être en posture de refus, et c'était l'année des élections. Donc on s'est dit, de toute façon, quoi qu'il advienne, on ne prend aucun engagement, on tient au moins jusqu'aux élections présidentielles. C'est pour ça qu'on a choisi de faire une grève de la faim. Voilà, donc cette grève de la faim était un des plus forts engagements, en tout cas c'était perçu comme ça par nos militants, et elle a duré au total 28 jours. Et quand l'histoire continue, en fait, on arrive à l'opération César. Donc c'est mi-octobre 2012, où là, l'État décide de faire une intervention très forte, avec 2000 hommes présents chaque jour, pour vider tous les illégaux de la zone. La proposition de la préfecture était claire. On va pas détruire de maisons, mais vous nous laissez les mettre dehors, quoi. Il n'y a eu aucune hésitation de notre côté. Je veux dire, ils étaient en train d'envahir la zone, ils étaient là pour permettre la construction de l'aéroport, donc fallait physiquement qu'ils ne réussissent pas. Et nous, on pensait, avec les zadistes, ça va faire un déferlement de violence, et les zadistes pensaient, bah, les citoyens, les agriculteurs, là, ils sont tout mous, ils vont regarder faire, et puis on va être obligé de se battre tout seul. Mais la réalité, c'est que les zadistes, face à l'opération policière, ont fait des barrages, ont tenu les barrages, ont résisté de différentes façons, et nous, on a résisté à côté des façons que nous, on avait choisies, alors en mettant des barrières humaines. C'est clair que les zadistes faisaient une barricade, le feu sur la barricade éventuellement, brûlaient des pneus, lançaient des cailloux, voilà. Chacun s'est battu à sa façon, d'une part, et d'autre part, comme ça a duré, puis il pleuvait énormément, etc., il y a eu un lieu de restauration et de réconfort et de repos qui s'est mis en place, et tout le monde a apporté de la nourriture, des vêtements secs, des chaussures quand il y avait besoin. Et donc, l'ensemble s'est organisé, chacun s'opposait à sa façon, et ça a fait du bruit, et très vite, énormément de monde sont arrivés, quoi. Et le soutien tout autour, et pas seulement d'agriculteurs, bien sûr, hein, mais de tous les gens des environs, a permis aux gens de tenir face aux flics. Moi, j'ai souvenir d'être allé un soir observer. Et ben, en fait, ils jouaient à 1, 2, 3 soleil, quoi. Les flics passaient, tenaient la route. T'avais le faisceau lumineux qui passait. Alors, tant que le faisceau lumineux passait, les zadistes ne bougeaient plus. Puis, dès qu'il n'y avait plus le faisceau, ils avançaient. Ils mettaient de l'animation, un peu d'humour aussi là-dedans. Après, ils se sont pris beaucoup de coups, etc. Il y a quand même eu, sur l'ensemble de l'opération, une centaine de blessés côté zadistes, quoi. Des choses assez méchantes. Donc, on s'est retrouvé plutôt en fin d'opération policière, quand ils ont décidé d'arrêter, en se regardant les uns les autres et en disant « Mais, bah, dis donc, vous avez été bien. Ah bah oui, vous aussi, vous avez été bien. » Et on a été obligé de comprendre qu'ensemble, on était fort. Quand on a eu ces procès pour expulsion, avant, on était les gens qui avaient refusé de partir. Après le jugement, on devenait des gens. Il se peut qu'un matin à 6 heures, il y a les CRS qui débarquent et qui nous mettent dehors. Ils vont tout ranger, tout mettre dans des paquets et nous faire partir de la maison. Et voilà, on avait réfléchi avec quelques paysans aussi comment on ferait pour les animaux, par exemple. Enfin, notre premier souci, c'était les animaux. À partir de 2016, ce risque existait physiquement. Et du coup, on leur a dit, voilà, on a le même statut que vous aujourd'hui. Et on était vraiment dans le même bateau. Ça, c'est clair. Et le 17 janvier 2018, le travail des experts terminé, Édouard Philippe a fait le discours dans lequel il donnait la décision du gouvernement et, en un mot, les conditions qui étaient « les agriculteurs pourront continuer leur travail ». On n'a jamais pu faire entendre qu'il y avait autre chose que des agriculteurs sur la zone. Il n'était question que, enfin, ne pouvait être identifié que des individus agriculteurs. Ce que ça a changé, c'est la conviction. Par exemple, c'est que j'utilise plus volontiers qu'avant le mot capitalisme ou ce genre de choses parce que dans ma culture à moi, c'était plutôt un gros mot ou très politicien ou très intello ou etc. Mais je pense que c'est quand même la réalité de ce qui détruit notre planète. En fait, ce mode de fonctionnement, d'accaparement, c'est quand même ça. Ma posture à moi, c'est que sans eux, on aurait perdu. Que eux, sans nous, n'auraient rien fait. Pour faire bouger les choses, il faut que des gens différents se battent ensemble sur ce qu'ils ont en commun et perdent pas de temps sur ce qu'ils ont en divergence. Pour nous, c'est vraiment une chance de côtoyer cette expérience-là. On n'aurait pas eu l'audace nous-mêmes de changer notre vie pour les fréquenter, et on a la chance, c'est eux qui nous fréquentent.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Caroline Ingrand-Offet, je suis pasteur protestante à Kolbsheim, donc un petit village à 15 km de Strasbourg, et ça fait 13 ans que je suis pasteur ici. Quand je suis arrivée à Kolbsheim, donc en 2010, il y avait déjà sur le fronton de la petite mairie à Colombages, Kolbsheim dit non au GCO, donc le grand contournement ouest de Strasbourg, GCO. C'est un projet de contournement autoroutier de Strasbourg qui date d'aussi loin que Notre-Dame-des-Landes. C'est un très très vieux projet Donc c'est en fait 24 km d'autoroute qui contourne Strasbourg. Et donc un des soucis quand même, c'est que ça a été vendu pour désengorger la ville, éviter les bouchons aux heures de pointe, etc. Or, comme son nom l'indique, c'est un contournement. Par définition, ça ne désengorge pas les axes d'arrivée à Strasbourg. En fait, l'enjeu de ce grand contournement ouest est plutôt de permettre aux camions de venir des Pays-Bas et d'aller jusqu'en Espagne ou en Italie ou inversement, évidemment, en restant sur un réseau autoroutier. Pour aussi éviter aux poids lourds, en particulier les plus polluants, de passer par l'Allemagne. Et donc, en fait, ça a été vendu à un niveau, disons, aux gens locaux, ça va vous aider dans votre vie quotidienne. Mais en fait, derrière, on est sur le modèle européen du tout camion. Donc c'était en octobre 2016, c'est la première fois que lors d'un culte, j'ai dans l'église dit que j'étais contre ce projet. Alors évidemment, je ne parlais pas d'écologie tous les dimanches, mais c'est quelque chose, voilà, je pense qu'il était suffisamment clair. Mais je ne m'étais jamais positionnée en tant que pasteur. Et au moment, je me suis dit, maintenant c'est plus possible en fait, je vais perdre ma cohérence de pasteur si je prêche dans mon église et que je dis ensuite aux gens, ben, allez vous battre, maintenant moi je reste là. C'était plus possible pour moi. Ici, ce sont vraiment des militants qui se sont dit, il y a une forêt là, vraiment juste à la sortie du village de Kolbsheim, qui faisait partie des deux forêts sur le tracé qui devaient être coupées pour la construction de l'autoroute. Et donc, ils se sont dit, en fait, pour vraiment pouvoir prévenir l'arrivée des machines et le début de la coupe de la forêt, il faut qu'il y ait des personnes dans la forêt, qui restent dans la forêt et qui puissent alerter de l'arrivée des machines. Et donc, c'est comme ça que les militants se sont dit, mais en fait, pour ça, il faut qu'on trouve des jeunes qui sont prêts à s'installer. C'est vrai que dans d'autres ZAD, ce sont des jeunes qui arrivent à un endroit sans demander l'autorisation à personne et qui arrivent et qui disent, nous, on va lutter contre ce projet. Là, c'était vraiment l'inverse. C'est vraiment, du coup, un jeune qui est arrivé, je pense, en juillet 2017. Et en fait, je me souviens très bien, je l'ai vu passer là depuis mon bureau, dans mon presbytère, depuis mes fenêtres et... J'ai fait du délit de faciès, je me suis dit, ça c'est le premier zadiste qui arrive. On est quand même dans des villages où il y a, non seulement tout le monde se connaît, mais il y a une certaine unité quand même aussi. Ne serait-ce que de couleur de peau, on repère quand même assez vite des jeunes qui viennent d'ailleurs. Il n'en demeure pas moins que ce premier jeune qui s'est installé, il avait rien. Hein. Il avait une roulotte qui avait été réaménagée vraiment de briques de broc par des militants. Et puis, c'est tout. Du coup, moi, spontanément, je lui ai dit, écoute, moi, je te donne la clé de la salle paroissiale qui est dans la cour du presbytère. Une petite salle où il y a de l'eau, il y a des toilettes, il y a l'électricité. Et c'est comme ça qu'en fait, cette clé s'est passée de zadiste en zadiste. J'ai été très bien accueillie par les jeunes, déjà parce que c'est moi qui suis allée vers eux. Mais évidemment, jamais en leur disant « vous êtes tous là au nom de la Bible ». Enfin voilà, j'ai jamais caché que j'étais pasteur. Et de toute façon, globalement, ils le savaient. Mais en même temps, j'ai jamais cherché à convaincre qui que ce soit. Tout au début, quand les tout premiers zadistes se sont installés à la ZAD, donc en été 2017, la question s'est posée de savoir comment est-ce qu'on allait prévenir les gens du village pour qu'ils puissent descendre au niveau de la forêt, en fait, pour éventuellement défendre les arbres et la forêt par rapport à d'éventuelles machines qui arriveraient. Et donc, le maire est venu toquer à ma porte en me disant, écoute, l'alarme du village est en panne, est-ce qu'on pourrait pas utiliser les cloches en mode tocsin pour éventuellement alerter les gens de manière efficace. Donc moi, je dis, bon oui, écoute, de toute façon, l'église appartient à la mairie, donc ils pouvaient le faire sans mon autorisation. Il se trouve que le matin où les machines ont débarqué, c'est moi qui étais de garde. Donc un zadiste est venu sonner à la maison et tambouriner à la porte en disant, ça y est, les machines sont là. Et donc, j'ai juste enfilé un pantalon et j'ai couru à l'église. Et on s'est retrouvés assez rapidement, une centaine de personnes, face aux quelques engins qui voulaient commencer effectivement à couper les arbres. En fait, on a réussi à faire gagner une année à la forêt. Ça m'a valu aussi d'être enregistrée par les forces de l'ordre comme faisant partie potentiellement des quelques personnes un peu en tête de ce mouvement, puisqu'ils essayaient de comprendre comment on s'organisait. Et donc, effectivement, on était, je crois, 5 ou 6 à être convoqués suite à cette manifestation sur la voie publique non autorisée. Je me suis retrouvée pour la première fois de ma vie interrogée par un gendarme. Il avait indiqué comme raison de ma convocation le fait que j'avais sonné les cloches entre 7h et 7h05 ce jour-là. Donc ça avait un côté totalement absurde. Et c'est vrai que je sentais bien que même le gendarme lui-même, il était un peu... Il savait pas très bien quoi faire avec moi, en fait. La ZAD, ça ressemblait... On peut dire un petit paradis. C'était absolument magnifique et bucolique. Et moi, j'y allais souvent avec mes filles comme balade. Hein. C'était extrêmement sympathique, extrêmement ouvert, détendu, joyeux. Et puis, évidemment, avec tout ça, va le côté complètement anarchique. Moi, j'ai lu 2-3 fois des choses qui ont été écrites sur les ZAD où on a l'impression que le tri des déchets est absolument au point, que tout est parfaitement ordonné, etc. Moi, je n'ai pas du tout vécu ça. J'ai vu le grand n'importe quoi. Avec certains toujours bien sûr qui essayent d'organiser, mais d'autres qui n'ont pas du tout envie d'être organisés, qui sont en mode anarchie, y compris pour la vie quotidienne. Donc j'ai découvert honnêtement ce monde de jeunes militants. En particulier, moi ce qui m'a beaucoup appris, c'est ces jeunes qui arrivaient là en n'ayant rien à eux et qui repartaient avec rien. En disant, oui j'ai reçu des objets, j'ai reçu des choses, mais je laisse tout ici en partant. Parce que tout ça ne m'appartient pas, en fait, et j'ai pas besoin de ça. Et ça, c'est une vraie leçon de vie. Et puis après, on a eu des débats sur... ils disaient, ah ben, cet après-midi, on va babylonner. Et je disais, ah bon, mais ça veut dire quoi, babylonner? Ils me disaient, bah oui, ça veut dire qu'on va dans les magasins, parce que de temps en temps, quand même, on est obligé d'aller. Et donc, voilà, moi, j'aurais dit, mais vous savez d'où ça vient, cette expression? Puis évidemment, ils savaient pas du tout, et que Babylone, ce que ça représente dans la Bible, le lieu, la grande ville. J'étais aussi curieuse de comprendre leur langage que eux, le mien, en fait. Et donc, je me suis dit, bon, bah, le 24, dimanche matin, c'est Noël, j'ai pas de culte, je vais venir passer un moment avec les zadistes. Et en fait, quand on est arrivé, ils avaient installé dans la grange de la ZAD, ils avaient installé les bancs bien en rang, ils avaient installé une table sur laquelle ils avaient mis une nappe blanche. Et puis, sur la table, il y avait la couronne de l'Avent. Et on a vécu vraiment un très joli moment de partage. Où moi je les ai comparés aux bergers de la crèche en disant que en Israël à cette époque-là les bergers c'est ceux qui habitaient en dehors du village et qui sentaient pas bon parce qu'ils étaient toujours avec les animaux et que donc c'était les exclus en fait des villages et donc je leur ai dit bah voilà vous êtes nos bergers en fait vous êtes ceux qui sentent pas bon qui sont dehors et qu'on veut pas forcément accueillir chez nous encore moins un jour de Noël mais en fait vous êtes là pour veiller quelque part sur nous d'une certaine façon à travers la lutte contre cette autoroute et voilà donc ça a été un très assez incroyable comme moment et effectivement moi le lendemain matin quand je me suis retrouvée devant mon église pour mon culte du 25 décembre très traditionnel voilà enfin je me suis dit bah franchement je me sens beaucoup plus dans l'esprit de l'évangile quand je suis à la ZAD les pieds dans la boue et dans le froid avec des militants que quand je suis dans l'église avec tous des gens dimanchés et ça m'a aussi obligée à repenser un petit peu mes fondamentaux on va dire. Alors le contournement, il a été inauguré en décembre 2021. Voilà, donc comme l'a dit ma fille du haut de ses 6 ans, maintenant le matin, il faut choisir si on écoute les oiseaux ou les camions. Les gens commencent à se rendre compte qu'effectivement, ça ne résout pas les problèmes de bouchons pour Strasbourg. Donc voilà, ce que nous avons dénoncé depuis très 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 longtemps et d'autres bien avant moi se révèle vrai et effectivement ce sont les camions les plus polluants qui circulent. Et après un an de ZAD, après tout ce qui s'était passé entre temps, bon nous on a réussi à savoir 24 heures enfin ou 12 heures à l'avance que l'évacuation allait avoir lieu le lendemain, donc on a eu le temps de s'organiser un peu. Mais les gendarmes mobiles, ils sont arrivés, ils étaient 550. Et des militants, il y en avait 200. Et des zadistes, il y en avait 20. Quoi. Donc ça a été très violent pour beaucoup de gens du village qui se sont mobilisés un peu spontanément, sans s'être préparés à recevoir des gaz lacrymogènes, à se faire refouler, jeter par terre. Enfin, moi-même, honnêtement, j'ai vraiment ressenti de la violence. J'avais l'hélicoptère qui tournait autour du presbytère. On se croyait vraiment en zone de guerre, quoi. Et donc, suite à ça, moi, je me suis dit, mais en fait, les gens, ils sont en état de choc, ils sont en colère, ils sont... Chacun pour des raisons différentes, on est effectivement en deuil de quelque chose, en deuil d'une lutte, en deuil d'une forêt, en deuil de la terre, hein, voilà, des tas de deuils différents. Mais tout ça, il faut en faire quelque chose, il faut que ça puisse s'exprimer. Et donc, on a décidé d'organiser un enterrement de la forêt. Donc, on a demandé effectivement aux zadistes d'aller chercher un tronc dans la forêt et d'entrer dans l'église en portant ce tronc comme on porte un cercueil à l'ancienne sur les épaules. Alors moi, j'ai fait une prière pour essayer de déposer toutes ces émotions, mais à aucun moment de la prière, je n'ai cité Dieu. Et j'étais très heureuse d'avoir réussi à avoir suffisamment de climat de confiance avec les zadistes pour les faire entrer dans l'église. Ça n'a vraiment pas été simple jusqu'au dernier moment. Et effectivement, on avait mis des couvertures par terre pour qu'ils puissent s'asseoir par terre, pour qu'ils soient plus dans leurs éléments que d'être assis sur un banc d'église, ce qui était insupportable pour certains. Donc voilà, on s'est adapté à eux, mais ils ont aussi fait leur part en venant là et en participant. Il y a encore des gens aujourd'hui qui me disent « Ah, mais oui, mais Kolbsheim, c'est l'église où il y a eu l'enterrement des arbres. »
C'était Mes voisins zadistes, un reportage de Timothée de Roglaude réalisé par Somaya Dabèche et mixé par Florent Bujon. Merci à Caroline et à Marcel ainsi qu'à l'association NDDL pour suivre ensemble et à la communauté de Thésée. C'est Céline Paris, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Rita Ruggirello, notre stagiaire. Sou da